dans la même situation, il ne faudrait pas que des aides, encore une fois que j'approuve, même si ça peut amener à discuter, et je comprends qu'on discute là-dessus, il ne faudrait pas qu'ils considèrent non plus que ça devient la norme. Voilà. Hein. Donc, oui, à la première, même si on vous demande un petit peu de nous dire d'une façon précise, c'est normal. On est dans une assemblée délibérante. Par contre, ça a eu un petit peu tiqué quand j'ai vu qu'il demandait à ce qu'on reconduise l'opération. On ne peut peut-être pas distribuer 40 000 euros comme ça très régulièrement aux commerçants, parce que sinon se poserait le problème de l'équité républicaine, où beaucoup d'autres ont aussi besoin, si ce n'est pas des commerçants, mais qu'on leur vienne en aide, notamment les familles qui finissent les fins de mois, le 5 du mois. Donc attention, prudence sur la rue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, que mes propos ne soient pas interprétés. Mais prudence sur la reconduction.
Merci, M. Vernier. M. Correa.
Oui, très rapidement, il n'est pas normal que la délibération... Pardon, je vois ce qui se passait. Il n'est pas normal que des délibérations comme celle-ci soient sujettes, fassent discuter. C'est bien normal. D'autant plus que, contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas des résistances. Elle a été votée à l'unanimité. Par contre, ce qui nous importe, à vous comme à nous, c'est que cette délibération puisse aller jusqu'au bout. Et effectivement, Patrick a soulevé un problème. Vous avez cité une délibération de la com d'Aglo, je pense que c'est peut-être celle de décembre 2018, qui clarifie, sauf que depuis, vous savez que les règlements évoluent, le Parlement vote devant l'eau, ça a été modifié en 2019. Et donc, pour parler clairement, cette délibération-là, elle est fragile. D'accord ? Donc, il faudra très vite un groupe de travail à l'Aglo redéfinir pour la conforter et la repasser et définir. Mais là aussi, ce que dit Michel, oui, que des collectivités soient souples et réagissent, on ne peut que s'en réjouir. Le mieux est quand c'est fait, effectivement, dans l'illégalité, pour pouvoir payer au bout. Parce que le trésorier peut dire, non, moi, je suis désolé. Donc, c'est ça qui nous appartient. Et par exemple, l'Aglo, nous avons apporté des aides directes à des commerçants, mais on a pu le faire parce qu'on a passé une convention avec la région, avant, qui a des compétences économiques, et comme ça, on peut payer. Et le trésorier, il paye et il n'a rien à dire. Donc, voilà. Donc, si demain, il doit se renouveler des opérations, ou si vous souhaitez renouveler des opérations comme ça d'aide, il faut peut-être suffit juste de revoir cette délibération de 2018 qui est fragile, encore une fois, parce que depuis et en 2019, notamment, de nouveaux décrets ont sorti et donc font évoluer tout ça, ou suffit de dire passer une convention ponctuelle avec l'agglomération pour pouvoir faire telle aide, on délègue et vous la faites en direct. Mais c'est bien vous qui choisissez, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est absolument pas par désapprobation. On approuve l'acte et il est quand même mieux, autant se mettre d'emblée dans les bonnes conditions juridiques, comme ça on est sûr et on est tranquille d'aller jusqu'au bout. Mais effectivement, là, le trésorier pourrait peut-être dire moi, je refuse de payer. Et pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'il adviendrait. Voilà, donc il vaut mieux consolider ça assez rapidement si, de nouveau, et malheureusement, il est probable que d'autres types d'opérations se produisent. Voilà, parce que il y a aussi l'option de dire cœur de ville. Cœur de ville nous permet aussi et permet à la ville de pouvoir faire un certain nombre d'actes en direct. Voilà. Donc c'est toujours mieux quand c'est bordé.
Merci. Vous avez tout à fait raison. Je redis juste ce qu'a dit Corinne, c'est qu'effectivement, pour faire vite et pour se border, donc on a rencontré le trésorier qui nous a effectivement accompagnés dans cette démarche. Mais on a bien pris note effectivement du fait de l'obligation de se border au maximum quand on intervient sur des sujets comme ça, et je vous remercie de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Lascaux?
Oui, merci. Je vais changer de sujet. Oui. Je voulais juste revenir sur l'autre ligne, les 24 000 euros pour l'audit de la piscine. Oui. Voilà, les questions sont suite à ce que vous nous avez annoncé au dernier conseil municipal. Vous nous avez annoncé une séance exceptionnelle pour parler de ce sujet-là. Donc, on voulait simplement savoir si c'était toujours d'actualité. Si ce n'est pas d'actualité, au moins, est-ce que vous envisagez de nous fournir au moins les documents de cet audit, voire même les audits précédents, pour voir un petit peu, pour prendre un peu la mesure du sujet. Et on souhaiterait aussi savoir si dans cet audit, il a envisagé la possibilité de rénovation de la piscine. Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment ou si vous voulez qu'on revienne sur le sujet.
C'est le bon moment. J'avais prévu de vous faire une intervention sur le sujet de la piscine en fin de conseil. Si vous voulez qu'on le fasse immédiatement,
quand vous voulez,
on peut
vous
le voulez. Faire. Il n'y a pas de problème. Donc, nous avions souhaité pour pouvoir avoir très, très rapidement des comptes rendus d'audit pour pouvoir prendre une décision concernant la piscine de Guéret. Les travaux ont été un petit peu plus longs que prévu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de conseil municipal exceptionnel sur la piscine. On attendait les rapports d'audit dont on a eu... Pardon. Oui, on entend mieux comme ça. Dont on a eu seulement une partie aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on est très, très, très juste dans les délais. Alors, bon. Tout le monde connaît le contexte du dossier piscine. Elle a été construite dans les années 70. On a eu deux rapports de la PAV en 2006 et en 2011 qui faisaient donc état de dégradation. À partir de 2007, les dégradations commençaient à être visibles. Bien entendu, ces rapports peuvent être consultés par les membres du conseil municipal, de même que le dernier rapport qu'on a reçu. Il n'y a là-dessus aucune rétention d'informations. Elles sont à votre disposition. Alors, par contre, c'est des rapports que j'aimerais bien qu'on consulte en mairie. Je n'ai pas envie d'en faire 33 duplications parce que ce sont quand même des rapports relativement confidentiels, mais ils sont totalement à votre disposition. Donc, on a fermé pour péril immédiat en octobre. On a demandé un troisième rapport de la PAV et une expertise complémentaire pour bien nous confirmer qu'on avait pris la bonne décision, et ça a été le cas. L'autre cabinet a aussi confirmé la nécessité d'une fermeture immédiate. On a entamé trois actions, des conventions avec les piscines extérieures pour essayer de sauver l'année des clubs, et puis pour pouvoir garantir à nos scolaires, surtout ce qui est notre priorité absolue, la possibilité de continuer à apprendre à nager. Des contacts avec différents fabricants de piscines semi-provisoires pour avoir une ressource immédiate et un diagnostic approfondi de la piscine actuelle, puisqu'il était bien entendu hors de question d'engager des financements sans être sûr que la piscine n'était pas réparable et à quel coût. Donc, parallèlement, pour compléter l'information, des discussions ont démarré au sein de l'AGLO sur la perspective de relancer le projet de centre aqualudique. Donc, ceci était important pour la ville de Guéret pour tenir compte des délais de construction dans le choix de la formule intermédiaire. Selon les délais de construction de ce centre aqualudique, il fallait qu'on oriente notre choix sur une formule ou sur une autre. Donc, il y a un groupe de travail qui va se réunir à l'AGLO pour travailler sur ce projet de centre aqualudique. Ce qui veut dire quand même que pour Guéret, on doit prévoir à minima une solution qui va nous couvrir 5 à 6 ans, ce qui est le délai moyen pour qu'un centre aqualudique ou une piscine puisse sortir de terre. La première piste du diagnostic dont on a reçu une partie aujourd'hui, c'est qu'on peut. On peut conforter la piscine actuelle. Le problème essentiel vient en fait de la toiture. On pensait que les fondations étaient fragiles. Elles le sont. Mais pas au point de dire que la piscine n'est pas réutilisable en ce qui concerne ses fondations. Par contre, le toit est prêt, est tout à fait prêt à s'écrouler. Le toit était trop lourd pour les poteaux qui le soutenaient, et donc on a des poteaux qui se plient et qui peuvent rompre à n'importe quel moment. Donc, la possibilité qu'on aurait sur la piscine actuelle, ça a beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, c'est une piscine qu'on connaît, dont on connaît le fonctionnement, dont on connaît aussi les frais de fonctionnement, ça serait de changer de toit. Donc, d'enlever, soit de consolider le toit actuel, soit de l'enlever et de le remplacer. Et là, toute la question est là. Le remplacer pour une utilisation uniquement de 4 à 5 ans ou le remplacer par quelque chose de plus pérenne qui nous porterait plus loin dans le temps. Mais on revient là à la discussion avec l'AGLO sur est-ce qu'on prévoit une plus grande pérennité de notre piscine ou est-ce que ce centre aqualudique va sortir dans un délai assez court, et dans ce cas-là, le toit serait remplacé par quelque chose de plus éphémère. Alors, le chiffrage des travaux. il nous est arrivé, là aussi, de façon un peu parcellaire, on peut dire, sans trop s'engager, qu'on serait entre 500 000 et 1 million d'euros. Quand on aura affiné le devis, on vous en fera part. 500 000 ou 1 million d'euros pour tenir 5 ans. Donc, et avec des travaux qui vont durer un certain temps et qui vont nous obliger quand même à prévoir une structure semi-provisoire pour permettre à nos scolaires et à nos clubs de reprendre la pratique. Mais dans ce cas-là, on prendrait une structure semi-provisoire de moins haut de gamme. Les structures semi-provisoires vont entre 1 million d'euros et 4 millions, voire plus d'euros, suivant ce qu'elles rendent comme service. Donc, voilà, aujourd'hui, on attend le chiffrage définitif des travaux et surtout le temps de réalisation de ces travaux pour pouvoir se projeter sur une structure provisoire. Et puis, ça nous donne le temps aussi. L'agglo a concentré sa réflexion sur le centre acolydique sur le mois de mars. Donc, ça veut dire que fin mars, on aura vraiment absolument tous les éléments de part et d'autre pour pouvoir choisir une solution ou une autre. Voilà. Bien entendu, on préférerait pouvoir réutiliser la piscine actuelle plutôt que de se lancer dans une autre construction ou une autre acquisition. Mais il faut qu'on soit en sécurité absolue pour les pratiquants. Et puis qu'effectivement, sur le plan budgétaire, ça vaille le coup d'être envisagé. Voilà, donc les trois diagnostics sont à votre disposition. Et le prochain qui va nous arriver complété, là, sans tarder, sera aussi à votre disposition dès qu'on l'aura, quand vous le souhaiterez. Est-ce que j'ai répondu, monsieur Lascou, à votre question ? Pas d'autres interventions ? Donc, il s'agissait juste de prendre acte de l'exposé de M. Gargadenec sur les dépenses imprévues. Donc, je vais lui repasser la parole sur la réalisation d'un emprunt et d'une ligne de trésorerie pour l'exercice 2020.
Alors, les décisions de recourir à l'emprunt et de souscrire des lignes de trésorerie relèvent de la compétence de l'Assemblée délibérante. Par délibération donc, du 20 janvier 2020 et du 17 juillet 2020, le Conseil municipal a délégué au maire pour l'année 2020 le pouvoir de prendre toute décision concernant la souscription des produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours, conformément donc au Code général des collectivités territoriales. En vertu de cette délégation et en application des dispositions donc du Code général des collectivités territoriales, le maire doit prendre des produits contractés au titre de l'exercice 2020. Ainsi, au cours de l'année 2020, deux consultations ont été lancées afin, d'un côté, de financer les investissements du budget général sous forme d'emprunt et de faire face à des besoins ponctuels aussi de liquidité comme ligne de trésorerie. Donc, au vu de l'ensemble des propositions bancaires reçues et des analyses effectuées, une sélection a été réalisée en concertation avec les services financiers et notre partenaire, la société Finance Active. Donc, il est demandé aux membres du Conseil de prendre acte de ces informations. Donc, vous avez le détail dans les documents transmis. Donc, un premier emprunt de 2 millions d'euros donc, avec la Banque Postale sur une durée de 15 ans. Et un deuxième emprunt au titre de la ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole pour le même montant. Voilà. Donc, j'attire juste l'attention sur le fait, effectivement, que les taux d'intérêt demeurent bas. Ils sont toujours très bas, donc ce qui est favorable effectivement à l'emprunteur. Et sur la qualité aussi de ces emprunts, puisque ce sont des emprunts qui présentent toute garantie de sécurité au titre des normes en vigueur.
Merci, monsieur Gargadenec. Des questions, des interventions ? Donc je vous demande juste de prendre acte de la présentation de monsieur Gargadenec sur le sujet. Nous allons passer donc au débat sur les orientations budgétaires 2021. Donc nous avons, comme nous l'avions promis, élargi la commission des finances à nos collègues des autres listes. Donc je remercie Monsieur Dubois, Monsieur Brunati et Monsieur Delettre d'avoir participé avec nous à l'analyse de ces orientations budgétaires. Et nous ferons la même démarche, bien entendu, pour notre budget primitif. Donc, M. Gargadenec, je vous passe la parole.
Alors, effectivement, vous avez eu le document. Donc, j'en profite pour remercier les services de la mairie qui ont travaillé à ce document très détaillé, et très pointue en matière de gestion financière. Je remercie aussi également avec Madame le maire les participants de la commission des finances, puisque à l'issue de cette commission, on a enrichi le document de présentation. Donc bien entendu, je ne vais pas vous faire une lecture des dizaines de pages du document, mais juste vous faire une présentation synthétique des grandes lignes de ce document. Donc je rappelle tout d'abord que le rapport d'orientation budgétaire permet de prendre en compte la gestion de la ville et des orientations budgétaires de la municipalité. Il va servir d'échange au débat d'orientation budgétaire qui précède la présentation du budget primitif. Donc à l'issue du débat, le rapport d'orientation budgétaire donne lieu au vote de l'Assemblée délibérante. Ce rapport d'orientation budgétaire permet de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et qui prendra en compte les évolutions conjoncturelles comme structurelles qui influent sur nos capacités de financement, qui prennent en compte aussi bien sûr les orientations du gouvernement dans le cadre de la loi de finances, ainsi que les contraintes liées au contexte sanitaire et économique. Alors, premier point, le contexte d'élaboration donc du rapport d'orientation budgétaire. Tout d'abord, un contexte national marqué par la crise sanitaire et économique. Juste, s'il fallait retenir un chiffre, indiquer que le contexte demeure bien évidemment marqué par la crise sanitaire et la crise économique, avec un recul du PIB pour l'année 2020 de 9%. Donc, en termes économiques, c'est effectivement un recul très important. La fiscalité est également impactée par la suppression progressive de la taxe d'habitation. Alors, depuis 2020, 80% des ménages ne paient plus de taxe d'habitation. Les 20% de ménages encore redevables bénéficieront de deux baisses successives en 2021-2022, avant la suppression totale donc, de cette taxe d'habitation. Pour 2023, je précise que cette taxe d'habitation demeurera pour les résidences secondaires. La perte du produit de la taxe d'habitation est compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La suppression de la taxe d'habitation est compensée à l'euro près par les services de l'État. Pour compenser l'érosion monétaire, les bases fiscales sont revalorisées en fonction de l'indice des prix à la consommation harmonisée, c'est-à-dire l'inflation, entre le mois de novembre de l'année N-1 et le mois de novembre de l'année N-2. Alors il faut savoir que cet indice a évolué de plus 0,2% en novembre 2020, ce qui est la plus faible revalorisation depuis 5 ans, la plus forte étant intervenue en 2019 avec plus 2,2%. Alors les concours financiers de l'État aux collectivités sont stables, avec une légère augmentation de 1,2 milliard d'euros pour atteindre 50,3 milliards d'euros au niveau national. Si la dotation globale de fonctionnement évolue peu avec 18,3 milliards d'euros pour le bloc communal, les investissements locaux vont bénéficier du plan de relance au travers d'un milliard d'euros d'autorisation d'engagement supplémentaire au travers de la dotation de soutien à l'investissement local. Les dotations de solidarité urbaine et rurale augmentent chacune de 90 millions d'euros, alors que la dotation d'équipement des territoires ruraux sera reconduite au même niveau que 2020. Au niveau du contexte local, celui-ci est caractérisé par une augmentation plus rapide des dépenses que des recettes. Bon, c'est une constante depuis de nombreuses années. Avec un peu plus de 316 agents employés en 2019, les ressources humaines sont le premier poste de dépense du budget de fonctionnement de la commune. 61,78% des dépenses de fonctionnement pour la commune de Guéret contre une moyenne de 59,09% au niveau national. Alors même si l'effectif en équivalent temps plein est relativement stable, puisqu'il est de l'ordre de 272 ETP en décembre 2019, je rappelle qu'il était en décembre 2014 de 270 ETP. Les dépenses de personnel augmentent régulièrement. Elles passent de 8 793 000 euros au compte administratif 2014 à 9 466 000 euros au compte administratif 2019, soit une progression moyenne de 1,5% par an. Alors, bien évidemment, ce n'est pas forcément lié à l'évolution des effectifs, comme on l'a vu, mais les charges augmentent mécaniquement sous l'effet de ce qu'on appelle le GVT, le glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire la reconnaissance au niveau de, au travers de la rémunération de l'ancienneté et de l'expérience des agents, et également évolue avec les revalorisations indiciaires. Je précise également que la commune internalise des activités en réalisant elle-même des travaux. La collectivité doit rester vigilante sur la maîtrise de l'évolution de ses dépenses. Il est à noter que le plus important transfert de compétences en faveur de l'agglo est intervenu en 2012 avec la petite enfance qui entraînait le transfert d'une trentaine de postes et de 700 000 euros de charges salariales et sociales. Le transfert de la compétence transport en 2014 n'a pas eu d'impact sur la masse des dépenses, les agents demeurant rattachés à la mairie. Les recettes d'exploitation de la commune évoluent peu. Elles passent de 17,74 millions d'euros en 2015 à 17,86 millions d'euros en 2019. Comme vous le voyez, c'est 0,17% par an en moyenne. La baisse des dotations et des participations, autour de 470 000 euros, est compensée par l'évolution des ressources fiscales, en hausse de 160 000 euros entre 2015 et 2019, grâce à la revalorisation nominale des bases. Elles atteignent 10,74 millions d'euros en 2019, soit la première ressource de la commune, suivie des dotations et des participations à hauteur de 4 millions d'euros. Les autres recettes, notamment grâce aux produits de gestion divers, que ce soit la mise à disposition de personnel, des redevances d'occupation du domaine public, et parmi celles-ci, il y a notamment le chauffage, le système de chauffage, les recettes également de l'Institut de formation. Donc tout ceci augmente de 480 000 euros pour représenter le troisième poste de recettes, avec près de 2,5 millions d'euros. Entre 2014 et 2020, la dotation forfaitaire de l'État a baissé de près de 1 million d'euros, passant de 2,9 millions d'euros en 2014 à 1,9 million d'euros en 2020. Donc j'ajoute que c'est des éléments qu'on retrouve aussi au niveau du budget de l'agglo, hein, ces baisses de dotation de l'État, quasiment, je crois, au même niveau. Dans le même temps, la dotation nationale de péréquation a subi une légère érosion avec 268 000 euros et la dotation de solidarité urbaine a augmenté de près de 200 000 euros pour atteindre 658 000 euros en 2020. Les dépenses d'exploitation augmentent plus rapidement, de plus de 1% par an, pour atteindre 15,18 millions d'euros en 2019. Le différentiel d'évolution donc entre les recettes et les dépenses doit alerter sur la dégradation de capacité d'épargne de la commune. L'épargne brute, c'est-à-dire avant remboursement du capital des emprunts, passe de 2,95 millions d'euros en 2015 à 2,23 millions d'euros en 2019. Alors que dans le même temps, l'épargne nette devient négative en 2019, à hauteur de 618 000 euros. Sans le remboursement d'une annuité d'un prêt relais de 900 000 euros, l'épargne nette aurait été de près de 300 000 euros. Donc la trajectoire financière reste saine, malgré un contexte de plus en plus contraint, car l'autofinancement dégagé permet de faire face au remboursement de la dette. Afin de conserver un niveau d'épargne suffisant pour financer le programme d'investissement, la maîtrise des dépenses d'exploitation constitue une exigence essentielle de la préparation du budget primitif. Concernant le stock de dette, le capital restant dû s'est levé à 14,1 millions d'euros en 2014 contre 15,4 millions d'euros en 2019, soit une augmentation de 9%. La capacité de désendettement, c'est-à-dire la dette rapportée à l'épargne brute, est le principal indicateur de solvabilité de la collectivité. Il s'établit à 7 ans, à fin 2019, pour se situer en dessous du seuil minimal recommandé par les spécialistes en analyse financière. Ce seuil est de 8 ans. 100% des emprunts sont sécurisés au regard des normes en vigueur. Alors, une fois présenté ce contexte, quelles sont les perspectives pour 2021 ? Alors, au niveau donc de la pression fiscale, je rappellerai juste que le produit des impositions directes par habitant est actuellement plus élevé que la moyenne de la strate. 590 euros par habitant en 2014, soit 516 euros par habitant pour la moyenne de la strate, et 639 euros par habitant en 2019, contre 567 euros par habitant pour la moyenne de la strate. Donc, ceci peut s'expliquer par les équipements de centralité que doit assumer une ville-préfecture comme Guéret, au bénéfice des Guéretois et, plus largement, des habitants de l'agglo. Donc, je souligne juste que cela pourrait donner lieu à un débat ultérieur aussi sur la redistribution de ces charges dites de centralité, en donnant comme exemple celui de la scolarisation d'enfants d'habitants extérieurs à Guéret. Donc, pour poursuivre, je rappellerai également que de 2017 à 2018, le cabinet d'études et cofinance a permis une revalorisation des valeurs locatives grâce à un travail d'identification des logements qui étaient déclarés à tort vacants, sans confort ou insalubres. La mise à jour des informations auprès des services de la Direction générale des finances publiques a permis de revaloriser les bases fiscales de 130 000 euros. Alors le chiffre est important et il est d'autant plus important que cette revalorisation est intervenue à un moment donné où les bases allaient être, notamment pour la taxe d'habitation, allaient être figées. Donc il était important de les revaloriser à ce moment-là et cette revalorisation vaut pour toutes les années, c'est-à-dire 130 000 euros chaque année. Donc c'est extrêmement important. Les ressources de fonctionnement seront également marquées par une baisse de l'attribution de compensation reversée par l'agglo en lien avec les derniers transferts de compétences et qui seront à négocier dans le cadre de la commission locale d'évaluation des charges transférées qui devrait se réunir donc en 2021. Depuis 2012, la commune de Guéret a mis en place une taxe sur les logements vacants qui peut constituer aussi un levier pour redynamiser l'immobilier local et inciter à l'occupation des logements. La municipalité étudie également l'opportunité d'une fiscalité spécifique pour le foncier des commerces de centre-ville, afin d'inciter les propriétaires à rénover et à remettre en location les surfaces en question. Cette fiscalité spécifique est à mettre en lien avec l'aide de la commune pour le paiement des loyers des commerçants et l'aide qui serait susceptible d'être apportée pour des travaux de rénovation des commerces également de centre-ville. Au niveau des dotations de l'État, les évolutions antérieures vont se poursuivre. La dotation globale forfaitaire devrait rester stable, tout comme la dotation de péréquation. La dotation de solidarité urbaine devrait être légèrement augmentée. En matière de fiscalité indirecte, le dynamisme des transactions immobilières devrait se traduire par une hausse des droits de mutation à titre onéreux. Le contexte de crise sanitaire impacte directement nos recettes d'exploitation, puisqu'effectivement, nous avons été amenés dans le cadre des confinements à arrêter le fonctionnement des cinémas, piscines, instituts de formation. Et donc, par contre-coup, effectivement, ces recettes sont en forte diminution sur l'exercice. Les dons et legs ont quant à eux enregistré d'importantes ressources. Je citerai juste les 1,3 million d'euros de la succession Lagarigue. Donnera lieu d'ailleurs à une délibération puisque ce don sera fractionné sur la durée du mandat afin d'alimenter les dépenses en faveur des personnes âgées via la subvention versée au Centre communal d'action sociale. Nous, au niveau de la municipalité, nous allons également rechercher à maîtriser les charges de fonctionnement. Comme je l'ai dit, la masse salariale demeure le premier poste de dépense qui évolue mécaniquement. Les marges de manœuvre pour en maîtriser l'évolution à la hausse résident dans la gestion aussi des remplacements des départs à la retraite. La municipalité a également souhaité stabiliser le niveau des subventions aux associations, même s'ils sont en légère hausse pour 2021. Les frais financiers demeurent maîtrisés compte tenu de la baisse des taux d'intérêt et la capacité d'autofinancement étant un peu érodée, la politique d'investissement devra s'adapter et également prioriser un certain nombre de travaux. Donc, au niveau donc, de la municipalité, nous allons mettre en œuvre également une politique d'investissement ambitieuse qui va bénéficier des effets du plan de relance gouvernemental et permettre de réaliser des travaux structurants et d'entretenir, rénover le bâti communal. Bon, l'exemple de la piscine illustre la nécessité effectivement d'entretenir ce bâti. Les investissements sont caractérisés par plusieurs grandes opérations, dont certaines comme le musée de la sénatorie, l'institut de formation ou la rénovation de l'hôtel de ville ont été initiés sous la précédente mandature. Donc de nombreux projets vont être finalisés, poursuivis, et initiée en matière d'investissement. En matière d'aménagement et d'environnement, plusieurs opérations sont prévues, dont certaines devront être confirmées, notamment par la passation d'actes d'achat chez les notaires. Nous avons également le maintien des dépenses de voirie à hauteur d'1 million d'euros afin de poursuivre l'entretien des voies communales, la concrétisation de l'acquisition du parking Enedis, situé avenue de l'Or, à hauteur de 477 000 euros, qui va permettre de renforcer les capacités en termes de parking en proximité du centre-ville. Là aussi, c'est un élément important et structurant pour la politique à venir en termes d'aménagement du centre-ville. Participation aux opérations de réaménagement du cœur de ville avec l'OPA-RU. Le déploiement d'un système de vidéoprotection pour sécuriser l'espace public, qui a donné lieu précédemment à un débat. L'acquisition et la dépollution au site du site des abattoirs à hauteur de 480 000 euros. Donc, le plan de relance inclut en effet le financement de ce type d'action qui permettra à la commune de Guéret de disposer d'une importante réserve foncière à hauteur de 16 000 m2 réalisée grâce à un haut niveau de subvention publique. Au niveau des équipements sportifs, plus de 6 millions d'euros sont programmés, dont 4 millions pour la seule installation d'une piscine semi-provisoire, en plus donc de la rénovation de l'institut de formation et de la couverture des terrains de tennis de Grand Ché. L'opération relative à la piscine fait partie des priorités de la municipalité pour 2021. Au niveau des équipements scolaires, 42 000 euros sont prévus pour l'acquisition d'équipements en nouvelles technologies. Les derniers travaux du musée de la sénatorerie sont prévus à hauteur de 768 000 euros avec la poursuite de la restructuration de l'hôtel de ville pour 396 000 euros, l'engagement de la première tranche de rénovation du petit théâtre aussi pour 616 000 euros. Des travaux de rénovation thermique des bâtiments, alors qui sont pour l'instant non chiffrés, sont aussi prévus dans le cadre du plan de relance. Donc, il s'agit pour nous d'aller chercher clairement des financements nationaux qui sont prévus dans le plan de relance du gouvernement. Les travaux en régie réalisés par les services communaux sont prévus à hauteur de 500 000 euros. Le montant total des investissements s'établit donc à 10 millions d'euros. Alors, bien entendu, il s'agit de données brutes à relativiser au regard du haut niveau de subvention qui est attendu dans le cadre des concours de l'État et du plan de relance. Le montant définitif reste conditionné à la notification du taux de subvention. Sans le projet de reconstruction de la piscine, je précise que le montant des investissements serait de 6 millions d'euros, c'est-à-dire un montant proche du niveau des investissements enregistrés sur les années précédentes. À noter également que la commune va se doter en 2021 d'un plan pluriannuel d'investissement qui permettra de planifier les investissements sur plusieurs exercices budgétaires. Alors, il s'agit là d'une bonne pratique, mais également d'une recommandation aussi des institutions financières, comme la Cour des comptes. Pour financer les investissements, plusieurs leviers donc seront mobilisés. Le fonds de compensation de la TVA en 2020, qui devrait s'établir à 730 000 euros. Il est indexé sur le volume d'investissement réalisé sur l'année N-1. Ce fonds comprend l'application d'un taux de 16,404%, inférieur au taux de TVA, puisque l'État conserve une partie du fonds qu'il reverse à l'Union européenne. La dotation aux amortissements s'élèverait à 1,85 million d'euros en 2021. La dotation est propre, car s'appuyant sur un actif fiable. En 2020, les subventions d'équipement représentaient 3,17 millions d'euros. Elles sont essentiellement constituées de la dotation aux équipements des territoires ruraux, qui permet d'intervenir à 80% des dépenses. En 2021, 450 000 euros sont inscrits pour le musée et 890 000 euros pour l'Institut de formation. Il est envisagé d'obtenir des financements à hauteur de 80% pour la piscine. L'enveloppe DETR, donc de dotation d'équipement des territoires ruraux pour 2020, est reconduite en 2021 pour atteindre un peu plus de 1 milliard d'euros, donc au niveau national. Au plan national, 1 milliard d'euros. Pour financer les investissements, les autres recettes sont constituées. de produits de cession de 315 000 euros prévus en 2021 pour la revente de l'immeuble rue de Pomeille, dont l'acte a été passé la semaine du 1er février, ainsi que la revente du centre équestre. Des produits d'amende de police à hauteur de 40 000 euros, de la vente de terrain à hauteur de 39 000 euros, notamment pour un lot dans le cadre du lotissement de Champegaud, de la taxe d'aménagement, 3% donc de perçu après 12 puis 24 mois après l'autorisation d'urbanisme, qui devrait également rapporter 40 000 euros. La ville de Guéret aura recours à l'emprunt pour boucler le financement des investissements, dont rappelons que la durée de vie résiduelle de la dette, qui est le nombre d'années nécessaires au remboursement intégral de la dette, est de l'ordre de 8,7 ans au 31 décembre 2019. Cette durée de vie résiduelle est bien inférieure aux moyennes constatées dans les collectivités, puisqu'elle est de 12,7 ans en 2019 pour les villes et les établissements publics intercommunaux de notre strate, entre 10 et 20 000 habitants, et de 13,9 ans pour l'ensemble des collectivités. Le coefficient d'endettement, qui est l'encours de la dette par rapport aux recettes réelles, c'est-à-dire le poids de la dette en année de recettes, s'affiche à 0,87 en fin d'année 2019, soit en dessous du seuil d'alerte de 1,3. Le capital restant dû s'est levé à 14,09 millions d'euros en 2014 contre 16,25 millions d'euros en 2020. Rappelons qu'en 2019, 2,6 millions d'emprunts nouveaux ont été réalisés et 2 millions en 2020. Le budget primitif devrait s'équilibrer avec un emprunt de 3 millions d'euros, je précise sur la base de réalisation de 100% des investissements, et porter donc le capital restant dû à 17,13 millions d'euros pour une annuité de remboursement capital qui serait de l'ordre de 2,11 millions d'euros. Voilà, donc j'ai terminé pour cette synthèse. Je suis désolé pour le nombre de chiffres qui ont pu être communiqués, mais il me semblait important quand même d'apporter un certain nombre de précisions. Le débat d'orientation budgétaire est un élément important de la politique de la municipalité. Donc, il me semblait important d'aller dans les détails. Maintenant, je vais rendre la parole à Madame le maire pour un point sur ce...
Juste donc un bref résumé, puis je vous passe la parole. Donc, un budget sain, mais qui reste fragile, bien entendu. Des gros investissements qui sont prévus. Des questions sur les charges de centralité. L'éventualité à réfléchir d'une fiscalité sur les commerces de centre-ville vacants en échange des aides à la rénovation et à l'installation. Et donc, en conclusion, l'équipe municipale a décidé de faire un geste envers les Guéretois et de neutraliser la revalorisation des bases fiscales, ce qui entraînera donc cette année une baisse des impôts pour les Guéretois de 0,2%. Voilà. Madame Bonin et Monsieur Vernier.
Oui, j'avais une petite question au rapporteur concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du centre-ville. Sur lequel il est passé assez vite. Donc, je voulais quelques précisions. Je vois que c'est une réinscription. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments ?
On a eu ces échanges-là lors de la commission des finances. Je ne sais pas, cette question n'a pas été évoquée. Donc,
certaines viennent...
Oui, elles viennent après, bien sûr. Mais s'il s'agit de réinscription, puisqu'en fait, de mémoire sur le budget 2020, et je crois que c'était un des éléments d'une décision modificative intervenue en 2020, des dépenses étaient effectivement prévues, elles n'ont pu être réalisées pour diverses raisons, et donc elles sont réinscrites sur le budget 2021, tout simplement.
Oui, je m'en doutais un petit peu, mais en termes de contenu, vous pouvez nous donner quelques éléments supplémentaires ou...
Quel, quels éléments supplémentaires vous voulez par rapport au document qui vous a été communiqué.
Madame le contenu, en fait.
Madame Tondu.
Oui, oui, éventuellement. Oui.
On est sur l'opération...
Éventuellement, vous pouvez peut-être nous répondre, Madame Tondu.
On est sur l'opération Cœur de Ville, hein.
Bien, merci. D'abord, c'est un budget de continuité que je constate sur la situation globale de la ville. Mais j'ai quelques chiffres que je ne partage pas avec vous. Qu'il faudra que vous contrôliez, que nous contrôlions, parce que je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je suis allé regarder un peu ce qui se passait sur la ville de Guéret pour l'année prochaine, sur la dotation forfaitaire, la DGF, grosso modo. Il n'y aura pas une stabilité, il y aura une baisse d'au moins 38 000 euros. Elle était de 1 918 406. Non, elle sera. Elle était de 1 956 195. Elle passerait, j'emploie le conditionnel, hein, à 1 918 406, soit des ressources en moins de 38 000 euros. Ça, ce sont les bases de données qui sont fournies par le ministère de l'Intérieur. Donc, ce n'est pas une stabilité. Je dis ça parce que ce n'est pas contre vous que j'en ai. Malheureusement, c'est le résultat à la fois d'une baisse de la population et de l'écrêtement. Mais vous avez dit que la DGF sera stable. Non, comme toutes les années, et pardon, je sais qu'il n'est plus de bon ton de faire de la politique, mais moi j'en fais, depuis des années, les dotations aux collectivités baissent et elles continueront à baisser, malheureusement, pour la ville de Guéret. Pour la DNP qui sera maintenue, c'est déjà ça. Vous savez qu'entre la part principale et la part majorée, on varie entre 90 et 120%. Elle est de 258 389. Elle était en 2020 de cette somme-là. Il n'est pas sûr qu'elle baisse pas non plus légèrement. Seule la DSU... D'abord, nous restons éligibles à la DSU. C'est une bonne nouvelle. Parce que chaque année, les critères de la DSU sont revenus, mais nous remplissons encore les critères d'éligibilité à la DSU. Elle est de 658 679. Il est probable... Alors, vous avez dit, elle augmentera. Moi, je ne vous le garantis pas. Vous savez que il est prévu une hausse de 6% de la DSU. Il n'est pas dit qu'avec la baisse de la population, elle se répercute chez nous. Mais prenons le gage de dire... qu'elle ne baissera pas, vous avez dit, elle augmentera. Moi, je dis, prenons la précaution de dire qu'elle ne baissera pas. Voilà. Voilà les remarques que je voulais faire, qui sont d'ordre technique, pardon, mais qui sont les données du ministère de l'Intérieur. Il faut aller les chercher et on les a maintenant. En tous les cas, pour la dotation DGF, elle va continuer inexorablement à baisser. Autre remarque, vous dites que la taxe d'habitation est compensée intégralement. Non, non. La taxe d'habitation, pour nous comme pour vous, elle est compensée sur les bases de 2017. 2017. Et depuis 2017, l'inflation a fait son effet. Et par conséquent, nous avons là aussi un effet de baisse. Et là non plus, vous n'y pouvez rien. Mais c'est la réalité. L'État ne compense pas, contrairement à ce qu'il dit, il ne compense pas à l'euro près, il compense à l'euro près figé. C'est-à-dire qu'il oublie qu'après 2007, il y a eu 2018, d'ailleurs année prolifique, où les bases ont augmenté de 2,2%, il y a eu 2019 où les bases ont augmenté de 1,2%, et malheureusement, cette année, des bases qui n'augmentent que de 0,2%, puisque le mode de calcul, avant c'était une décision parlementaire qui était prise, d'augmentation des bases se faisait à l'Assemblée nationale, les députés votaient un amendement sur les bases, Maintenant, ce n'est plus le même système, c'est un système européen, de calcul européen. Ce n'est même plus l'inflation, mais il y aura une augmentation des bases qui sera seulement de 0,2%. Et moi, je vous laisse à votre décision politique, parce que là, pour le coup, vous faites un effet d'annonce. Vous dites, on va baisser les impôts des Guérétois sur la taxe qu'ils payent, pas sur la taxe d'habitation, puisque 80% d'entre eux n'en paient plus. Donc, sur la taxe foncière, mais vous ne maîtrisez ni ce que feront le Conseil, vous ne maîtrisez pas ce que sera obligé de faire l'aglo dans son budget. Moi, je ne sais pas si elle augmentera ou pas. En tous les cas, vous vous engagez à dire on va baisser les impôts des Guérétois. Est-ce que vous pouvez me dire quoi? Alors, ma première question, c'est combien ça représente? La baisse de 0,2% que vous annoncez aujourd'hui, je suis surpris que vous l'annonciez, parce qu'on n'est pas on est dans les orientations budgétaires, et c'est là qu'on parle des taux, et non pas quand on parle des orientations budgétaires. Ça représente combien en masse pour la ville de Guéret, les 0,2%, M. Garganek?
Alors, ça représente 16 à 17 000 euros.
Voilà.
Alors, je précise également que la dotation globale de fonctionnement, effectivement, moi, quand je dis elle se stabilise, elle baisse légèrement. Mais
38 000 euros, un demi-point d'impôt.
Alors, nous, vous avez dans le document, effectivement, d'orientation budgétaire, effectivement, elle va baisser de 36 000 euros. Voilà, mais c'est vrai que par rapport à la masse des 2 millions d'euros, c'est vrai qu'on parle plus effectivement de stabilisation.
Vous me dites que vous allez baisser la fiscalité de 16 000 euros et vous avez la DGF qui baisse de 38 000. Ça fait 54 000 de ressources en moins pour la commune. Donc, moi, c'est votre volonté, mais 16 000 euros, je regarderai d'ailleurs pour le budget très attentif à ça, parce que des effets d'annonce qui vont représenter 2 euros, 3 euros sur une fiche d'impôt d'un guérétois, c'est une annonce politique, vous avez le droit de la faire. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Que ça pénalise, une fois de plus, la ville de Guéret, mais chacun choisit effectivement ce qu'il veut faire. Alors, quelques questions, puisque vous avez parlé de la rénovation des bâtiments de la mairie que nous avons là aussi initiés. Que deviennent les bâtiments de la rue de l'ancienne poudrière que nous louons 5 000 euros par mois?
Alors, je vais répondre d'abord sur les éléments chiffrés. Alors, sur la DSU, qui est une autre dotation, toujours dans le document, on voit qu'elle va passer de 659 000 euros à 696 000 euros.
C'est une hausse possible de 6%, mais elle n'est pas encore donnée. Hein.
Oui, mais en même temps, pour le débat d'orientation budgétaire, il nous faut prendre des chiffres.
Bon, vous êtes prenons plus, les chiffres. Vous avez raison, j'espère que vous allez avoir raison.
Voilà, donc on voit que là, au niveau de la DGF, effectivement, si elle baisse, la DSU, elle augmente. Il en va également de la dotation également nationale de péréquation. Alors bon, qui pour le coup, effectivement, évolue peu, mais qui au moins ne diminue pas, puisqu'on a prévu qu'elle passerait de 268 000 à 270 000 euros. Donc ça, c'est des précisions quand même, effectivement, à apporter, qui me paraissent pertinentes. C'est vrai que quand je dis, moi, que les dotations de l'État se stabilisent, c'est parce qu'effectivement, la DSU augmente et la dotation globale de fonctionnement diminue.
L'augmentation de la DSU, M. Garganek, ne compense pas la baisse. Vous défendez une politique de baisse des dotations de l'État. C'est fou, cette histoire.
Je ne défends pas du tout une baisse des dotations. Je ne fais qu'un constat. Je ne défends pas absolument la baisse des dotations de l'État.
Alors, constatez...
On l'a subi, les baisses des dotations de l'État. On ne la partage pas.
Constatez avec moi que les dotations d'État baissent encore. Vous ne pouvez pas dire le contraire, puisque les chiffres vont vous montrer l'inverse de ce que vous dites. On va tous ensemble s'en plaindre. Je crois quand même que c'est mieux. Donc, je repose ma question parce que je ne veux pas expliquer ici pourquoi je pose cette question, mais les bâtiments de l'avenue de l'ancienne poudrière ont-ils un avenir pour la ville? Seront-ils conservés? Continuerons-nous à payer à la CCI un loyer de 5 000 euros par mois alors que nous avions décidé, l'ancienne majorité, de refaire tous les locaux de la ville de Guéret en reprenant la CCI passée pour justement rapatrier tout le monde. Alors, est-ce que vous allez rapatrier tout le monde ?
Monsieur Vernier, vous n'avez...
C'est une question simple, Madame le maire.
Non, mais laissez-moi répondre comme ça. Monsieur Vernier, vous n'ignorez pas que la société Luro est en liquidation judiciaire, que c'est celle à qui vous avez confié ces travaux ?
Non.
Monsieur
s'il
Vernier,
vous plaît,
5 minutes.
S'il vous plaît, un peu de décence. Je ne suis pas responsable de la liquidation judiciaire de la société Luro à qui nous avons confié des travaux et nous ne le regrettons pas vu la qualité des travaux. Voilà.
Je n'ai pas dit que vous étiez responsable de la liquidation judiciaire. Je dis que la société qui avait été choisie par votre équipe pour faire ces travaux est en liquidation judiciaire. Donc le déménagement était prévu initialement au 1er avril. Tant que nous n'avons pas pu repasser un marché et finir les travaux, le déménagement n'aura pas lieu. Quant aux locaux qui sont rue de l'ancienne Poudrière, dès qu'on pourra les rendre, évidemment on les rendra, on n'en a aucune utilité
au
titre de la mairie.
Malgré ça, dans peu de temps.
Dès qu'on aura effectivement fini les travaux sur la mairie. Monsieur Vernier, il faut repasser des marchés.
J'ai ma réponse. Ces locaux ne seront pas conservés par la mairie.
Non.
Y loger des gens aujourd'hui est une absurdité. Y reloger des gens aujourd'hui est une absurdité.
Mais absolument, mais personne...
Ah, voilà, très bien, je suis content de vous l'entendre dire. Bien, alors ensuite...
Ah, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. J'ai bien compris.
Voilà.
J'ai bien compris que c'était les locaux des listes d'opposition, mais bien entendu,
non,
serez relogé dès que le déménagement aura lieu.
Non, c'est pas du tout ça. Il y a des locaux accessibles en fauteuil et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, bien... Alors ensuite sur, vous avez parlé de la dépollution du site de l'abattoir. Bravo, une bonne idée. Je n'ai pas été suivi là-dessus, mais c'est vous qui avez raison. Et vous évoquez une somme. Est-ce que les dotations, vous n'avez pas les recettes dans ce que vous nous donnez ? Parce que l'Europe intervient là-dessus et je suppose qu'on ne parle que de dépenses et pas de recettes.
La dépollution est évaluée à 450 000 euros.
Hors recette ou avec ?
Non, hors recette.
Hors recette, d'accord.
Et là-dessus, donc, nous aurons des financements du plan de relance, puisque nous avons déposé...
Oui, et puis regardez du côté de l'Europe, il y a aussi des sommes importantes pour la réhabilitation des sites. Donc ça, c'est autre chose. J'ai entendu aussi que vous disiez couverture des terrains de Grancher. De quoi parlez-vous ? Des terrains extérieurs ?
On parle du site tennistique qui prend l'eau de partout, effectivement.
Pour les tennis, vous parlez de couvrir les terrains extérieurs qui ont été
Alors, l'idée, c'est effectivement de pouvoir couvrir les terrains extérieurs pour qu'ils puissent servir de terrain couvert le temps qu'on puisse réaliser les travaux nécessaires sur les terrains actuellement défectueux.
Vous êtes dans la continuité du projet que nous avions mis en place.
J'en suis ravi, monsieur Vernier. Parfait. J'en suis ravi que nous ayons les mêmes idées.
Ah, mais vous voyez qu'on se rejoint sur un certain nombre de choses. Non, mais moi, je suis désolé. Je suis content aussi pour l'IRFJS Grancher, Guéret-Ville Préolympique. Je suis content pour un certain nombre de sujets que vous poursuivez et ça me fait... Évidemment, plaisir. Donc, sur les amendes de police, 43 000 euros, on sait que c'est une petite somme par rapport... où en est-on des contrôles de stationnement aujourd'hui ? Et puisque vous installez progressivement une police municipale, est-ce que vous allez contrôler davantage ?
La cellule de tranquillité publique a dans ses missions les missions des ASVP traditionnelles, dont le contrôle, effectivement.
Oui, mais je vous approuve là-dessus.
Tout à fait.
Donc, vous allez augmenter les recettes, vous verrez. Parce que là-dessus, on a été un peu léger. Hein? Donc, c'est pas plus mal. Voilà, pour l'instant, j'aurai d'autres questions au moment du budget, mais nous confronterons nos chiffres le moment venu sur le budget de la ville de Guéret. Mais quand